Géopolitique, Marie-France Chatin.
Bonjour et merci de nous rejoindre pour cette nouvelle édition géopolitique dont nous vous recommandons l'abonnement dans votre application favorite de podcast. Américains et Chinois ont fait du ciel une priorité. Les premiers ont plus d'avance que les seconds pour des raisons historiques d'abord, budgétaires ensuite. Les États-Unis qui ont repris en 2020 les vols habités abandonnés depuis 2011 grâce au vaisseau conçu par SpaceX, la firme fondée par le milliardaire américain Elon Musk, confirme cette option avec la deuxième mission régulière, incluant le français Thomas Pesquet. La Chine n'est pas en reste, qui a lancé ces trois dernières années plus de fusées dans l'espace que tout autre pays, ainsi que des missions vers la Lune et vers Mars. Les États-Unis ont longtemps bénéficié dans l'espace d'une avance technologique telle qu'il leur était difficile d'imaginer être jamais rattrapée. L'avance se réduit avec une Chine dotée de moyens financiers et techniques largement supérieurs à ceux de la défunte URSS et qui s'équipe d'une puissante industrie de l'espace. En décembre 2019, Donald Trump lançait la création d'une force spatiale devenue la sixième branche des forces armées américaines. L'administration Biden semble jouer la continuité. En quoi le spatial est-il un enjeu de géopolitique pour cette édition en partenariat avec la revue Diplomatie, regard sur le paysage spatial? Nos invités en studio, Isabelle Sourbès-Verger, géographe, spécialiste des politiques spatiales, directrice de recherche au centre Alexandre Coiré du CNRS. Bonjour.
Bonjour.
Alain Dupas, physicien, consultant international sur les stratégies aérospatiales et co-auteur du Destin cosmique de l'humanité aux éditions Odile Jacob. Bonjour.
Bonjour.
Toujours au téléphone, Jean-Daniel Testé, général de brigade aérienne, président directeur général de l'Observatoire de la Terre appliquée et ancien commandant interarmée de l'espace. Bonjour.
Bonjour.
Et Marc Julienne, responsable des activités Chine à l'Institut français des relations internationales, auteur d'une recherche sur les ambitions spatiales de la Chine. Bonjour.
Bonjour.
Quelques mots pour commencer sur la station spatiale, un projet fou qui remonte à 1984, lorsque Ronald Reagan demande à la NASA de développer une station spatiale habitée en permanence. Les premiers segments sont envoyés dans l'espace en 1998. Le laboratoire file en orbite à 400 km au-dessus de la Terre, une vitesse de 28 000 km/h, un laboratoire qui accueille des scientifiques de nationalités variées qui tirent profit des conditions spatiales uniques pour réaliser diverses expériences portant sur la biologie, la physique, l'astronomie ou encore la météorologie. Quel regard portez-vous sur cette station et peut-être surtout sur SpaceX et ses vaisseaux? Est-ce que l'Europe ne peut compter que sur les États-Unis pour envoyer des hommes à elle dans l'espace? Et les entreprises du New Space sont-elles une part importante dans le retour en force de l'industrie spatiale américaine, Alain Dupas?
Écoutez, bon, parlons d'abord effectivement de la station spatiale internationale qui maintenant est existe depuis plus de 20 ans. Elle a été occupée en permanence par un équipage depuis plus de 20 ans. Son assemblage a été terminé en 2011 avec la fin des vols de navettes. Alors, c'est un projet gigantesque. C'est le plus grand projet de coopération scientifique et technique civile dans le monde. On cite toujours un ordre de grandeur des investissements qui est de l'ordre, effectivement, de 100 milliards de dollars. C'est quand même une somme très importante. La station spatiale internationale est gérée par toute une série de partenaires, enfin un nombre limité de partenaires. Le leader, c'est la NASA qui finance l'essentiel du programme. Les autres partenaires, ce sont le Canada, l'Europe et le Japon et la Russie qui a rejoint le projet après la chute de l'URSS. Et je dirais que c'est un très grand succès sur le plan de la coopération, sur le plan de la coordination. Faire fonctionner un système comme cela avec des centres de contrôle dans les différents pays partenaires, avec différents moyens de transport, eh bien, c'est quelque chose qui marche absolument remarquablement. Et on va le voir encore avec cette nouvelle mission d'astronautes vers la station, avec la mission Crew 2 de la NASA qui utilise le vaisseau Crew Dragon de SpaceX. Bon. Alors, c'est le fait, l'Europe est un partenaire minoritaire, mais c'est un choix. Je veux dire que l'Europe a eu une stratégie autonome en matière de vols habités dans les années 1980, ce qui commence à dater pas mal, quand justement à l'époque où les Américains lançaient le projet qui s'appelait alors Freedom, c'était pas encore l'ISS, à ce moment-là, l'Europe a eu le projet d'une fusée très capable de lancer aussi bien des hommes que des satellites qui étaient Ariane 5, et puis une petite station spatiale visitable, le MTFF, qui pouvait s'amarrer à la station américaine, et puis un avion spatial Hermès. Malheureusement, cette belle stratégie très cohérente a été abandonnée en 1993, et depuis, l'Europe joue les seconds rôles dans ce programme, alors qu'elle a parfaitement les capacités techniques de faire ce que fait SpaceX, c'est-à-dire d'avoir un vaisseau habité et de desservir la station ou de desservir sa propre petite station. Je veux dire que c'est un choix qui a été fait, mais ça ne veut pas dire que nous n'ayons pas les compétences. Mais les compétences, ça ne suffit pas. Il faut aussi avoir une vision et une volonté. Et pour l'instant, dans ce domaine, c'est absent.
Alors, on reviendra bien sûr sur la notion de vision et de volonté de l'Europe. Isabelle Sorbès-Verger, vous souhaitez rajouter quelque chose à ce qui vient d'être dit?
Non, simplement, c'est vrai que les vols faits par un opérateur privé, donc SpaceX, dont on parle beaucoup, c'est la fin de la station. C'est-à-dire qu'en réalité, aujourd'hui, la station théoriquement s'arrête avant 2024-2025. Et donc, le futur, y compris pour les vols de capsules, ça va être plutôt la future station en orbite autour de la Lune.
On en parlera. Fin de la station, pas complètement non plus, puisqu'il y a des projets de vols touristiques. Je ne sais pas ce qu'il faut en penser. Ce que vous en pensez ?
Moi, ce que j'en pense surtout, c'est que ça va être très cher et très compliqué de déorbiter la station. Et donc, plus longtemps on pourra la faire durer et l'utiliser, mieux ce sera. Mais en même temps, c'est une station vieillissante. Elle a de plus en plus de pannes. Donc, il va effectivement falloir trouver une solution. Et ça va être compliqué à gérer pour la NASA parce que ça va arriver en biseau avec les nouvelles ambitions qu'elle a en orbite circumlunaire. Et une dernière chose, les vaisseaux Soyouz continuent quand même à partir vers la station. Et on en a un qui est parti, je crois que c'est la semaine dernière.
Alors, Isabelle Sorbès-Verger, on a évoqué SpaceX. C'est l'occasion de parler de ce nouveau vocable intervenu pour évoquer l'espace aujourd'hui. C'est New Space, le nouvel espace. C'est une autre image des activités spatiales qui est là donnée. Est-ce qu'on peut parler de rupture? Et j'en reviens à ma question. Est-ce que finalement, les entreprises du New Space, alors on a évoqué SpaceX pour Elon Musk, il y a aussi Jeff Bezos, Amazon, qui a des tas de projets. Est-ce que ces sociétés, est-ce qu'on peut dire que ce sont elles qui permettent aux États-Unis de retourner en force dans l'industrie spatiale? Qu'est-ce qu'il faut en penser?
Ça, c'est vraiment une question compliquée, le New Space. Moi, j'ai beaucoup de difficultés avec ce vocable parce que oui, il y a une nouveauté, c'est-à-dire que maintenant on a des entrepreneurs privés qui arrivent avec leur propre vision en réalité de ce qu'ils veulent faire dans l'espace. Parce que des entrepreneurs privés, Boeing, Lockheed, tout ça, c'était déjà des entrepreneurs privés. Donc la différence, c'est que ce soit effectivement Bezos ou Elon Musk, ils savent, ils ont des projets de constellation, ils ont leur propre vision, y compris Mars pour Elon Musk. Donc ça, c'est vraiment original. Maintenant, pour moi, c'est quelque chose qui n'a de sens que dans l'écosystème américain, éventuellement européen, dans la mesure où nous avons quand même une industrie aérospatiale assez intégrée avec l'industrie américaine et globalement des ambitions d'utilisation économique de l'espace qui sont assez proches. Mais sinon, si vous regardez la Chine, si vous regardez la Russie, si vous regardez l'Inde, ce vocable, il est plus ou moins utilisé parce qu'en fait, j'ai une étudiante qui fait une thèse sur le New Space chinois et en fait, il n'y a pas de New Space chinois. Il y a du spatial commercial et ça encore, c'est une notion très, très ambiguë. Donc, si vous voulez, il y a ce vocable qui sonne bien et qui donne l'impression qu'on est reparti dans une nouvelle conquête de l'espace. Et donc, les États-Unis en sont le flambeau. Pour les États-Unis, c'est vrai. Pour le reste du monde, c'est plus discutable, à mon sens. Et la dernière chose, c'est que le New Space n'a pas effacé ce que je ne veux pas appeler l'old space, mais en tout cas le spatial traditionnel, parce que la puissance spatiale publique américaine, eh ben, c'est bien elle qui va faire le retour vers la Lune, c'est elle qui continue à avoir les très nombreux satellites militaires, c'est elle qui est véritablement le moteur en réalité. Vous avez un budget spatial américain qui est à plus de 45 milliards de dollars. Donc le New Space, il se greffe là-dessus, et c'est effectivement quelque chose qui change la donne. Ça change aussi la donne parce que les technologies des satellites avec la miniaturisation permet à plus d'acteurs d'intervenir, etc. Donc oui, il y a un changement de paradigme, mais les vecteurs traditionnels du spatial existent toujours, y compris la dimension donc, de financement public, et même l'aspect de prestige, comme au bon vieux début de l'ère spatiale, quand vous voyez les Émiratis qui font une mission autour de Mars pour célébrer la science islamique et arabe, là, vous revenez sur des ressorts quand même très, très anciens. Donc ça, je pense que c'est vraiment un petit peu là qu'il est compliqué pour tout le monde de penser les activités spatiales aujourd'hui.
Vous écoutez RFI, Géopolitique.
Alors, on évoquera tout cela, bien sûr. En tout cas, ce New Space américain, on remarque Jeff Bezos, Elon Musk, ce sont tous des hommes d'affaires issus du monde du numérique. Alors, je me tourne vers vous, Marc Julien. Isabelle Sorbès-Verger disait qu'il n'y avait pas de New Space chinois. Vous partagez ?
Oui, c'est le concept américain est difficilement applicable tel quel dans le contexte chinois. Alors, le fait est quand même que la Chine s'inspire énormément. La Chine est d'un certain côté fascinée par le système d'innovation américain, par l'industrie spatiale américaine et aimerait avoir des champions comme les champions américains. Et d'un autre côté, c'est un repoussoir puisque voilà, dans le contexte communiste ou en tout cas de capitalisme d'État en Chine, on ne pourrait pas voir émerger des acteurs aussi puissants. Et d'ailleurs, on peut faire une comparaison avec le secteur du numérique qui est devenu très très puissant en Chine avec les BATX qui actuellement est en train d'être repris en main, repositionné sous la férule du parti. Et on voit bien qu'on ne verra pas d'Elon Musk ou de Jeff Bezos dans le secteur spatial en Chine. C'est très peu crédible.
Jean-Daniel Testé, vous souhaitez intervenir à cette étape de l'émission et ajouter quelque chose ?
Bon, moi, je voudrais juste... c'est dommage de commencer par un volet négatif, une impression négative. Mais bon, je voudrais faire part de deux regrets, je dirais. Enfin, le premier regret sur la station internationale, puisque c'était le début de l'intervention, c'est que je pense qu'elle porte, dès le départ, en son sein, dans sa création, les germes des problèmes futurs que l'on va connaître dans l'espace. C'est-à-dire que la Chine ne participe pas à la station internationale. Et ça, par une volonté. Alors, je pense que je vais pas remonter dans l'histoire, je ne connais pas complètement l'origine non plus. Je ne sais pas si c'est réellement une volonté uniquement des participants actuels d'exclure la Chine ou si c'est la Chine qui n'a pas voulu rejoindre le projet non plus. Mais ce qui est clair, c'est que en fonction de ça, il y a beaucoup de choses, et Marc Julien pourra le confirmer ou pas, si je me trompe, il y a beaucoup d'activités chinoises qui se sont montées dans le spatial, je dirais pas en opposition, mais disons en rivalité de ce que faisaient les autres, les pays qui participaient à la station internationale. Donc je pense que pour moi c'est un regret, c'est qu'on n'ait pas dès le départ, imaginer une utilisation comme dans les plus beaux rêves, je dirais, du Copios, c'est une utilisation pacifique de l'espace. Alors c'est bizarre de dire ça pour un militaire, mais bon, après on verra d'autres points. Clairement, avec la totalité des pays, des puissances spatiales qui participent à ce projet. Et donc forcément, ça générera dans l'avenir des rivalités pour l'instant qui ne sont pas solutionnées et qui poseront problème. Ça c'était le premier. Le deuxième, c'est peut-être une forme de question, mais aussi un regret, par rapport à ce que disait le premier interlocuteur, une fois de plus, l'Europe, la place de l'Europe. Alors technologiquement, effectivement, l'Europe a toutes les capacités pour participer à un bon niveau, pour fabriquer des lanceurs, on le voit très bien avec Ariane 5, puis Ariane 6 bientôt, mais clairement, il y a une problématique de volonté politique aujourd'hui. Et la question que je me pose depuis, parce que je n'ai pas la solution, je n'ai pas la réponse en tout cas, c'est quel peut être le déclencheur pour que l'Europe réellement investisse politiquement ce domaine-là et dynamise un petit peu tous ces projets pour être en mesure de rivaliser avec d'un côté les Américains, d'un autre côté les Chinois. Je n'ai pas la solution aujourd'hui, c'est un problème éminemment politique, parce que la techno, on l'a déjà dit, on en dispose en Europe et on le sait, donc c'est plus une problématique d'entente entre les différents grands pays européens dans le cadre de l'Agence spatiale européenne peut-être, je ne sais pas. Pour moi, c'était essentiellement, c'était un regret de ne pas pouvoir retrouver en Europe cette dynamique que l'on observe aux États-Unis et bien entendu en Chine aussi.
Isabelle Sorbès-Verger.
Oui, je voulais rebondir sur la remarque de Jean-Daniel Testet. C'est très intéressant cette construction qu'on fait de la rivalité Chine-États-Unis, parce que de fait, bien sûr, elle existe. Et comme le disait Marc Julien, c'est l'horizon chinois, c'est quand même ce qui se passe dans le modèle américain. Et en même temps, il me semble que les Chinois sont très soucieux de le faire aux caractéristiques chinoises. Et ce qu'on oublie, nous, un petit peu facilement, c'est que le spatial chinois, il est décalé dans le temps. C'est-à-dire qu'ils ont commencé avec 20 ans de retard. Ils ont commencé en plus en pleine révolution culturelle. C'était compliqué. Si bien qu'aujourd'hui, il y a une sorte de fait que se rejoignent les chronologies. Et donc, par exemple, quand la Chine va sur Mars, il se trouve qu'elle y va en même temps que les États-Unis. Mais pour elle, c'est sa première mission martienne. Elle ne va pas sur Mars parce que les États-Unis y sont. Elle va sur Mars parce que, étape par étape, elle apprend à maîtriser les différentes technologies spatiales. Et donc, effectivement, nous avons tendance à le voir parce que nous projetons aussi dans l'espace les rivalités terrestres. Et donc, cette compétition économique entre la Chine et les États-Unis, immédiatement, les États-Unis eux-mêmes vont la mettre en avant et vont montrer qu'il faut qu'ils avancent encore plus. Et ça encore, ça rentre bien dans l'imaginaire américain qui s'est construit dans le spatial au moment de la guerre froide avec cette rivalité par rapport à l'Union soviétique qui avait été la première à lancer le premier satellite, le premier homme, etc. Donc, ce traumatisme des Américains d'un concurrent communiste, on le retrouve aujourd'hui vis-à-vis de la Chine, et la Chine s'en sert. Et moi, je suis très sensible à l'effet boomerang, c'est-à-dire que finalement, ce sont les États-Unis qui crédibilisent le plus les ambitions chinoises et qui ont tendance à dire la Chine va devenir la puissance concurrente, peut-être un jour la plus grande puissance si nous ne prenons pas garde. Alors que, bon, les déclarations chinoises, a priori, dans les documents officiels, elles étaient beaucoup plus modestes. C'était nous apprenons à faire de mieux en mieux, avec bien sûr l'ambition de devenir parmi les premiers sur la scène spatiale. Mais eux ne sont pas dans une concurrence directe, si vous voulez, c'est une ambition future, c'est un petit peu différent, il me semble.
Alors c'est peut-être la notion de concurrence qui donne aux Américains toute l'énergie qu'elle a leur dans l'espace. Alors Marc-Julien, est-ce qu'on peut dire finalement que la Chine est en mode rattrapage? Et Isabelle Sorbès-Verger évoquait cette spécificité chinoise, aller sur Mars pour y apprendre des choses, et ce choix d'aller sur la Lune en abordant la face cachée de la Lune, Marc-Julien. Alors Marc-Julien, pour 1 minute 30 dans cette première partie d'émission, et on vous retrouvera toujours sur la Chine dans la deuxième partie, mais c'est simplement pour vous dire que le temps est légèrement serré. Marc-Julien.
Oui, je serais un peu plus circonspect sur la notion des caractéristiques chinoises, qui sont vraiment le slogan utilisé un peu à tort et à travers par le pouvoir central aujourd'hui en Chine. Je me demande, moi, si le programme chinois est vraiment particulièrement caractéristique ou spécifique, puisque finalement, il a l'air d'emprunter la même voie que les soviétiques, que les américains. Et c'est une approche qui est très méthodique, très brique après brique. D'abord le vol habité, ensuite les stations spatiales, le programme lunaire, et puis maintenant le programme martien. Donc, je me demande dans quelle mesure les Chinois sont extrêmement originaux, bien que par contre leur progression est extrêmement rapide, et on le voit sur ces 20 dernières années. Peut-être pour réagir sur la question de la station spatiale internationale et le fait que les Chinois n'aient pas été intégrés, je pense que je ne veux pas distribuer les mauvais points, mais c'est vrai qu'il y a eu quand même une loi du Congrès en 2011 qui donc a légalement interdit la NASA de collaborer avec l'agence spatiale chinoise. Donc je ne sais pas si c'est les Chinois qui n'ont pas voulu. En tout cas, clairement, le Congrès américain a interdit les États-Unis de coopérer avec la Chine.
Merci Marc-Julien. On vous retrouve après le journal avec Isabelle Sorbès-Verger, Jean-Daniel Testé et Alain Dupas. A tout de suite.
Vous souhaitez réécouter Géopolitique ? Rendez-vous sur RFI.fr. Géopolitique, Marie-France Chatin.
L'espace comme domaine de rivalité de puissance, nous retrouvons nos invités en studio. Isabelle Sourbès-Verger, géographe spécialiste des politiques spatiales, directrice de recherche au centre Alexandre Coiré du CNRS. Par téléphone, Alain Dupas, physicien, consultant international sur les stratégies aérospatiales et co-auteur du Destin cosmique de l'humanité aux éditions Odile Jacob. Jean-Daniel Testé, général de brigade aérienne, président directeur général de l'Observatoire de la Terre appliquée et ancien commandant interarmée de l'espace. Et Marc Julienne, responsable des activités Chine à l'Institut français des relations internationales et auteur d'une recherche sur les ambitions spatiales de la Chine. Quelques chiffres pour redémarrer cette émission sur l'espace. Le budget spatial chinois, ce sont 10 milliards de dollars. Le budget spatial américain, 50 milliards de dollars, dont plus de la moitié pour le militaire. Nous en parlerons. La Chine est donc encore très loin, mais son budget a été multiplié par 8 en 10 ans. Jean-Daniel Testé, vous souhaitez ajouter quelque chose ?
Bon, je veux simplement rajouter qu'effectivement, les Chinois sont très actifs dans le spatial. Ils ont peu à peu développé toutes les capacités, que ce soit de l'observation, que ce soit des télécommunications. Enfin, ils disposent aujourd'hui d'un panel autour de la Terre de toutes les capacités et continuent de développer avec des champs d'activité qui sont assez ambitieux et qui répondent complètement à leurs besoins, à la fois, je dirais, civils et militaires. Mais une activité intense et des produits qui, effectivement, il y a quelques années, comprenaient peut-être un petit peu de hauteur comparable avec les produits qui étaient délivrés, enfin les services qui étaient délivrés par les satellites occidentaux. Mais maintenant, les images qui sont réalisées par les satellites chinois, les performances de leur liaison télécommunication en particulier, sont tout à fait comparables à ce que l'on fait en Europe et ce que l'on fait aux États-Unis.
Alors, beaucoup de questions autour de ces questions, puisqu'on parle de rivalité de puissance, c'est peut-être important de replacer les choses. Alors, les questions budgétaires, c'est une chose, bien sûr. Après ça, il y a les compétences technologiques, qu'il y a la véritable concurrence de la Chine. Qu'est-ce que l'on peut dire si on devait dresser un panorama de la situation entre les uns et les autres ? Alors, je veux dire, les acteurs, il y a bien sûr les États-Unis. Qui peut prétendre aujourd'hui à la position de deuxième place, véritablement ? Est-ce que c'est la Chine ? Est-ce que c'est la Russie ? Comment se situe l'Europe ? Comment se situe l'Inde, le Japon, les Émirats arabes unis ? Isabelle Sourbès-Verger ?
Ça, c'est vraiment la question la plus compliquée, parce que tout dépend de quel point de vue vous regardez les choses et quels sont les indicateurs que vous allez mettre en avant. Si vous mettez en avant les capacités technologiques, la Russie est encore capable, on le voit bien, de faire voler des hommes dans l'espace. Elle dispose d'un système de navigation, elle dispose de satellites militaires dans des systèmes très pointus. Et donc, d'une certaine façon, son héritage soviétique fait qu'elle pourrait encore apparaître comme la deuxième puissance spatiale. Ce serait quand même en même temps difficile de lui donner ce titre, parce qu'on voit bien que sur tout ce qui est nouvelles avancées du spatial, elle est absente. On voit bien qu'il n'y a plus de financement véritablement pour la science et la fameuse mission que l'Europe devait faire avec la Russie, finalement, elle n'est pas partie vers Mars comme elle aurait dû le faire l'été dernier. Ça sera pour dans 2 ans. Donc, si vous voulez, c'est sûr que la Russie a encore de très beaux souvenirs, mais elle ne les met plus en valeur, donc on va l'exclure de la deuxième place. Alors, la deuxième place, ça pourrait être, on va dire, la Chine. Ça, c'est classique, parce que la Chine, justement, elle est en train de monter en puissance et qu'elle a cette grande continuité politique qui fait que son horizon, aussi bien à travers les plans quinquennaux que le rattrapage des capacités technologiques, fait qu'on voit une courbe très régulière qui grimpe et qui fait qu'elle pourrait apparaître comme deuxième puissance. Ce qui me un petit peu, c'est que du coup, on oublie l'Europe. Or, l'Europe, et ça a déjà été dit, a des compétences technologiques qui sont vraiment de premier plan. Sauf que l'Europe a fait le choix de ne pas avoir cet espace de souveraineté affichée, de fierté nationale. Alors, c'est difficile, dans le cas de l'Europe, d'avoir une fierté nationale. C'est difficile d'avoir une institution politique qui va porter ce projet spatial parce que ça lui rapportera un bénéfice politique direct. Ça n'existe pas en Europe. Et donc, effectivement, on n'a pas d'espace habité original et même nos missions martiennes, elles sont en coopération avec les uns et avec les autres, ce qui est une force parce que ça permet à l'Europe de parler à tout le monde et d'avoir ce nœud de capacité multilatérale, mais en même temps, en termes d'image, l'Europe, elle n'apparaît pas aussi facilement sur la place. Donc, deuxième place, bon, je ne sais pas trop ce que ça veut dire en réalité. De toute façon, dans l'espace, en termes d'image, c'est la première place qui compte. Et si vous regardez les discours, c'est c'est très intéressant, c'est toujours le moment où on est premier de quelque chose qu'on met en avant. Donc la France a été la première puissance spatiale à réaliser tel ou tel type d'activité, si vous voulez. Chacun va chercher le moment où il est premier, ou alors le moment où il est troisième. Ça, c'est assez amusant. Mais le deuxième, c'est pas très bien vu, parce qu'en fait, vous êtes juste celui qui est le vaincu par rapport au premier, si vous vous positionnez dans une ambiance de rivalité et de compétition.
Alors, je vais peut-être proposer à Alain Dupas de réagir à ce qui s'est dit jusqu'à présent. Et pour ce qui est de l'Europe, peut-être Alain Dupas, la place de la France est tout de même primordiale.
Disons que je parlais tout à l'heure d'une stratégie cohérente qui avait été établie dans les années 1980. Cette stratégie était cohérente parce qu'il y avait un leader spatial en Europe, un pays leader, qui était la France. Bien entendu, l'Europe, il y a de très nombreux pays. L'Agence spatiale européenne regroupe également de nombreux pays. Mais l'existence d'un pays leader sur un domaine particulier est très importante. Et depuis les années 90, eh bien, je dirais que la France a volontairement abandonné ce rôle de leader, que ce soit d'ailleurs pour les vols habités ou pour le transport spatial. Les conditions du développement de la fusée Ariane 6 aujourd'hui ne sont pas du tout celles du développement de la fusée Ariane 5 antérieurement. Cela étant, ça pourrait changer. Le problème de la gouvernance de l'espace en Europe est clairement posé. L'Agence spatiale européenne s'est avérée être un instrument extrêmement efficace de mise en commun des moyens spatiaux des pays européens. Ça a très très bien marché. Ça marche d'autant mieux qu'il y avait des leaders sur certains segments, en particulier la France. Mais aujourd'hui, donc, ça manque un peu de leadership. Mais vous avez eu un nouvel acteur qui est apparu, qui est l'Union européenne. Et l'Union européenne, qui s'occupe a priori d'abord d'applications, porte le projet de navigation spatiale européenne qui est Galileo, qui marche très bien. Et puis le projet également d'observation de la Terre, Copernicus. Et maintenant, au niveau de l'Union européenne, avec le commissaire Thierry Breton, il est clair que l'Union européenne voudrait développer, elle aussi, une grande constellation dans l'esprit de celle de la constellation de Elon Musk et Starlink, ou de celle de Jeff Bezos, Kuiper. Donc, le problème de la gouvernance européenne, c'est qu'elle est complexe, parce que vous avez des administrations spatiales dans beaucoup de pays, en particulier en France, avec le CNES. Vous avez, d'autre part, donc l'Agence spatiale européenne, qui est toujours là et qui est créé par un traité à part. Et puis vous avez l'Union européenne qui maintenant a de gros projets qu'elle utilise comme expert et comme réalisateur de ces projets, l'Agence spatiale européenne. Mais si vous voulez, ça commence à devenir un petit peu complexe. L'Union européenne, l'Agence spatiale européenne, les agences nationales, puis des ambitions rivales. Donc, c'est pas facile dans ces conditions de se positionner. Sur les temps, je suis tout à fait d'accord avec Isabelle Sourbès que l'Europe est sur certains secteurs clairement le numéro 2. Elle privilégie la coopération de toute façon par rapport à la compétition. Mais je voudrais revenir aussi un instant. Donc, si l'Europe est numéro 2, par exemple, en matière de technologie pour les satellites, par exemple, et puis l'Europe a quand même dominé le transport spatial pendant plus de 20 ans, l'Europe est vraiment à des compétences très très fortes. Maintenant, pour ce qui est d'occuper le numéro 2, la Chine a une approche très différente. Je serais très surpris que la Chine veuille rejoindre un jour l'équivalent de la Station spatiale internationale. D'abord, dans les jours qui viennent, elle va lancer le premier module de sa propre station. C'est donc très important. Mais par ailleurs, il ne faut pas oublier une chose, ce sont les Américains qui, de toute façon, depuis la fin des années 1990, veulent exclure la Chine du spatial international pour éviter les transferts de technologie. Et c'est d'ailleurs pour ça que vous n'avez pas de lanceurs chinois sur le marché commercial. C'est très important parce que, du coup, eh bien, si vous voulez, la Chine a quand même d'excellents lanceurs. Ça a été dit antérieurement, la Chine a lancé ces dernières années plus de fusées que tout autre pays, mais ces lanceurs ne sont pas en compétition, par exemple, avec Ariane, et ça, c'est la volonté des Américains. L'administration Joe Biden ne va certainement pas changer ça, parce qu'en particulier le Congrès aux États-Unis est extrêmement remonté contre les risques de transfert de technologie vis-à-vis de la Chine. Et donc la Chine poursuit son propre chemin.
Et la question spatiale aux États-Unis, elle a une forte connotation de soutien populaire. Enfin voilà, les Américains ont tout de même été les premiers à envoyer des hommes sur la Lune. Je reviens avec vous, Marc-Julienne. Après ça, je vous passe la parole, Jean-Daniel Testé. Sur la question chinoise, le président Xi Jinping a placé en 2015 la domination technologique de la Chine en tête de ses priorités en décidant de renforcer la fusion entre le civil et le militaire. Qu'est-ce que cela implique? Et finalement, dans la doctrine du faible au fort, quelle est la priorité pour la Chine?
La priorité pour la Chine, elle est très clairement technologique, et je parle pas que du spatial, mais la Chine a bien conscience que, par exemple, sur le plan militaire, ce serait presque illusoire de vouloir rivaliser avec les États-Unis sur le plan quantitatif, c'est-à-dire le nombre de chars, le nombre d'avions, le nombre de bateaux. Et donc, elle mise beaucoup plus sur un rattrapage ou un raccourci, en fait, par le biais de sauts technologiques. Et donc, c'est pour ça que Xi Jinping, comme vous l'avez rappelé, a mis comme ambition que la Chine devrait être la première puissance technologique mondiale. Et d'ailleurs, dans un horizon qui n'est pas celui du centenaire de la RPC de 2049, mais même bien avant, et dès les années 2030-2035. Et donc, le spatial, évidemment, dans ces ambitions technologiques, joue un rôle extrêmement important. C'est d'abord un rôle technique et technologique, d'être les compétences, les savoir-faire, les applications qu'on peut développer dans l'espace et qui servent au développement du pays. Et puis, il y a évidemment toute la dimension politique et symbolique que représente le spatial, qu'on a déjà évoqué aujourd'hui sur la compétition, comme disait Isabelle Sourbasverger, le fait d'être numéro 1 et que elle, la Chine, je ne sais pas si elle est numéro 2, numéro 3, mais en tout cas, elle est très très claire sur ses ambitions, qu'elle souhaite être le numéro 1, et c'est ça qui importe.
Jean-Daniel Testé, vous souhaitez rajouter quelque chose?
Non, je voulais simplement dire qu'aujourd'hui, on essaie de faire une hiérarchie des différentes puissances spatiales dans le monde. D'un point de vue militaire, simplement, je veux dire, aujourd'hui, bien entendu, ceux qui sont le plus avancés, tout simplement parce qu'ils ont intégré le spatial dans les opérations militaires beaucoup plus tôt que les autres, sont les Américains. Mmh. J'ai eu la chance d'aller en Chine en 2005 pour assister à un discours très impressionnant d'ailleurs, et ce qui prouve que les idées, enfin leur politique est fixe et avec, comme vient de le dire Marc-Julien à l'instant, avec des objectifs très clairs. Déjà en 2005, l'objectif c'était de rivaliser avec les États-Unis dans le domaine du numérique à l'horizon 2025. On y est quasiment, la rivalité est quasiment atteinte, enfin l'équilibre est quasiment atteint. Donc leur objectif est clair, et je pense qu'ils iront dans ce domaine-là, dans le domaine militaire, pour parler essentiellement du militaire, dans la logique d'impliquer encore plus, de la même façon que le font les Américains, le spatial dans les opérations militaires, à un niveau comparable aux Américains. Je pense qu'ils y seront avant les Européens et certainement avant les Russes aujourd'hui.
On en parlera de cet aspect militaire dans l'émission de demain. Je reviens vers vous, Isabelle Sourbès-Verger, à cette sorte de... On a compris qui étaient les premiers et cette bataille pour la deuxième position. On descend un tout petit peu plus bas dans la hiérarchie, et j'aurais cette question aussi, est-ce qu'il y a un degré de coopération entre Chine et Russie dans le domaine spatial? Mais on a vu donc en janvier 2020 l'Inde présenter lors de sa fête nationale son premier missile anti-satellite, et en avril 2020 le Japon a pour sa part créé une unité spatiale au sein de ses forces de défense avec pour objectif d'être pleinement opérationnel en 2023. L'Inde et le Japon sont les pays qui se placent précisément derrière tous ceux qu'on a évoqués précédemment.
Oui, justement, j'ai fait l'erreur que je reproche souvent, c'est que j'ai zappé le Japon dans ma description des puissances spatiales. Et en fait, le Japon, il a un petit peu le même problème que l'Europe, c'est-à-dire qu'il a des compétences technologiques très affirmées. Hein. Premier retour d'échantillons d'astéroïdes, c'est quelque chose de fabuleux que même les Américains n'ont pas encore fait. Donc, si vous voulez, le Japon est une grande puissance spatiale technologique. Simplement, la question au Japon de l'image et de cette héritage finalement de la Deuxième Guerre mondiale.
La question militaire.
Et puis même la question globale de géopolitique, c'est-à-dire que le Japon va avoir une position assez réservée, en particulier pour ne pas heurter les puissances régionales, et va toujours apparaître sur nous faisons du spatial pacifique, nous faisons du spatial en coopération pour aider à la lutte contre les désastres, etc., etc. Et nous faisons de la science et de la technologie spatiale. Si bien qu'il n'y a pas cette image de grande puissance spatiale, et ne projette projette pas cette image de grande puissance spatiale. Et puis, de toute façon, le Japon reste quand même un pays relativement petit, surtout si vous le comparez effectivement à l'Inde, même si clairement le spatial japonais est bien devant le spatial indien aujourd'hui. Mais l'originalité, ça c'est quelque chose qu'on n'a pas encore dit par rapport à la Chine, mais c'est que comme l'Inde, elle a besoin du spatial pour son développement intérieur et son développement économique. Ce sont des États immenses avec des populations qui ont besoin, je dirais, de télémédecine, de téléenseignement, d'information au sens large, et qui n'ont pas ces infrastructures terrestres que nous avons. Et donc, le spatial, c'est le moyen d'économiser et de faire directement ce saut technologique qu'évoquait Marc Julienne, avec raison, et donc de se doter d'une infrastructure qui va finalement permettre aux pays de rattraper les pays les plus développés, sans même, si vous voulez suivre du foncier, si vous voulez faire du cadastre, en Chine et en Inde, vous ne pouvez faire ça qu'avec l'espace. Donc l'Inde, c'est un pays original, puisqu'en fait, depuis le début, il utilise le spatial à des fins de développement. Et donc, il va chercher toutes les coopérations possibles, et jusqu'à justement ce renversement avec le Premier ministre Modi, il va surtout se garder d'avoir la moindre activité spatiale militaire, parce qu'il veut pouvoir bénéficier des fameux transferts de technologie. Donc le spatial indien, c'est une combinaison d'influence ex-soviétique, et encore une forte coopération avec la Russie, d'influence européenne, parce que nous avons en particulier dans le domaine des lanceurs des liens qui ont été très étroits avec l'Inde, et puis de coopération avec les États-Unis, qui ont été des partenaires très importants dans les années 60-70, et qui reviennent aujourd'hui dans la coopération. Et ce renversement sur le spatial militaire indien, là je dis je dirais que c'est à la fois le fait que quand un secteur spatial a une certaine maturité, eh bien, il est capable de développer des technologies qui peuvent aussi servir aux militaires. Mais dans le cadre de ce tir anti-satellite, c'est très intéressant parce que c'est au moment de la campagne électorale du Premier ministre Modi, avec une interprétation que je trouve très intéressante, qui est que finalement, dans le domaine du nucléaire, l'Inde a été exclue de ce fameux club des puissances nucléaires parce qu'elle n'avait pas testé avant le moment où ce club a été constitué.
Dans le traité de non-prolifération.
Absolument. Or, un des arguments de l'Inde, c'est de dire il y a eu des tests anti-satellites qui ont été réalisés par les Russes, par les Américains, par les Chinois. Si nous n'en réalisons pas, et si un jour un club est créé de la même façon que ça s'est créé contre la prolifération nucléaire, nous allons nous retrouver dehors. Donc c'est l'argumentaire qu'ils ont mis en avant, je pense que c'est un peu spécieux, mais en même temps, c'est tout à fait intéressant et c'est pas complètement faux. Donc l'Inde, oui, future grande puissance spatiale, sans aucun doute.
Et les Émirats Arabes Unis, Isabelle Sourbès-Verger, c'est un peu la surprise récente, mais explication.
Pour moi, les Émirats Arabes Unis ne sont pas une puissance spatiale. Une puissance spatiale, j'en ai une définition très ancienne, hein, très classique. C'est un pays qui est capable de lancer son propre satellite avec son propre lanceur depuis sa propre base. Okay. Et ça, les Émirats, ils ont fait lancer une sonde par un lanceur japonais. Et cette sonde, elle a été conçue en étroite coopération avec les Américains. Et donc, l'originalité de cette mission émiratie, c'est que c'est une équipe scientifique émiratie et c'est l'agence émiratie qui est le maître d'œuvre de ce programme, qui a financé ce programme. Mais à mon avis, ça montre pour le coup l'intérêt que l'on peut avoir dans un État qui veut se montrer technologiquement avancé et qui veut apparaître comme un État qui pense le futur, de réutiliser le spatial comme signal fort de cette ambition d'originalité et de projection dans le futur. Mais je pense que les Émiratis auront du mal à avoir leur propre lanceur et leur propre base au sol. Donc là encore, on est sur quelque chose de différent.
Merci Isabelle Sourbès-Verger. Je rappelle que vous êtes géographe, spécialiste des politiques spatiales, directrice de recherche au Centre Alexandre Coiré du CNRS. Merci aussi Alain Dupas, physicien, consultant international sur les stratégies aérospatiales et co-auteur du Destin cosmique de l'humanité aux éditions Odile Jacob. Jean-Daniel Testé, général de brigade aérienne, PDG de l'Observatoire de la Terre appliquée, ancien commandant interarmé de l'espace, et Marc Julienne, responsable des activités Chine à l'Institut français des relations internationales et auteur d'une recherche sur les ambitions spatiales. Géopolitique était signé Marie-France Chatin, Cécile Lavolo et Nathalie Laporte. Demain, nous poursuivrons sur les questions spatiales avec leur aspect plus militaire.